Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Au mois de mars, les Nations Unies ont pour la première fois unanimement dénoncé les violences faites aux femmes et défini un code de conduite pour les combattre. En effet, lors de la 57e session annuelle de la Commission de l'ONU sur le statut de la femme et à l'issue de près de deux semaines de négociations à New York, les 193 États membres ont accepté d'inclure dans leur déclaration un paragraphe soulignant que la violence contre les femmes et les filles ne pouvait se justifier par aucune coutume, tradition ou considération religieuse. En République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, les femmes sont victimes de ces violences. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Un homme se bat depuis des années pour elles, le docteur Denis Mukwege, gynécologue obstétricien, directeur de l'hôpital Panzi de Bukavu, dans l'est de la RDC. Je vous propose la rediffusion de cette interview que nous avions réalisée au mois de mars, lors de son passage à Paris. Terminé, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano.
RFI.
Docteur Denis Mukwege, bonjour.
Bonjour madame.
Je suis très heureuse de vous recevoir dans Priorité Santé, de pouvoir parler longuement avec vous du travail que vous faites pour les femmes. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration des Nations Unies du week-end dernier ?
Je vous remercie madame. Je pense que cette déclaration vient compléter la résolution 1325, 1820, et d'autres. Et je suis très très satisfait puisque je pense que les coutumes, la religion ont beaucoup freiné en fait la cause de la femme, spécialement lorsqu'il s'agit de la lutte contre les violences sexuelles.
Et vous, justement, vous vous battez contre ces violences sexuelles. Vous avez opéré plus de 40 000 femmes qui ont été violées et mutilées. Ça fait combien de temps maintenant que vous dénoncez ces viols dans l'est de la RDC ?
Ça fait effectivement 15 ans que j'essaye de dénoncer sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international, puisque c'est un drame qu'on ne devrait pas laisser continuer à se faire dans cette région.
Qui sont ces victimes ?
Les victimes, ce sont les femmes et les enfants. En effet, les malades que nous soignons, il y a un très faible pourcentage, seulement 1% d'hommes qui viennent à notre clinique, mais la grande partie sont des femmes et des enfants.
Des femmes qui ont quel âge ?
L'âge varie entre 2 ans et 80 ans. Malheureusement, en fait, un enfant de 2 ans qui est violé par des adultes ou une vieille femme de 80 ans, vous comprenez que l'intention de détruire est très très marquée dans le viol qui se font à l'est de la République démocratique du Congo.
Ça fait 15 ans donc que vous dénoncez ces viols et vous avez été un des premiers à dire que ces viols sont finalement utilisés comme armes de guerre. Pourquoi ?
Absolument, ces viols sont utilisés comme une arme de guerre, mais même plus comme une stratégie de guerre. Puisque lorsque nous récoltons les informations auprès de nos victimes, il y a des constats que nous faisons, c'est que ces viols se font de façon méthodique. Et donc chaque groupe armé a sa méthode donc de violer, de torturer les femmes. Et par les tortures ou la façon dont ces viols sont menés, on peut même parfois identifier le groupe armé à l'origine du viol par la marque de torture. Deuxièmement, ce sont des viols qui se font massivement. Donc les femmes sont violées. Nous avons des exemples où des villages entiers, les femmes ont été prises à partie et toutes ont été violées dans une nuit. Ça s'est passé lors de la Saint-Sylvestre à Fizi. Ça s'est passé à Walikale, à Chabunda. Et vous comprenez très bien que lorsqu'on doit violer 200 femmes dans une nuit, c'est pas un fait du hasard. Donc c'est tout à fait bien planifié pour pouvoir y arriver. Ces viols sont systématiques. Comme je venais de vous dire, en fait, vous voyez, lorsqu'on doit violer les enfants, on viole les femmes âgés, on viole également les hommes en fonction du groupe armé qui agit. Et donc, à notre avis, ce sont des viols qui sont systématiques, avec des visées bien sûr politiques et visant à humilier, à déshonorer toute une communauté. Et donc, nous les considérons beaucoup plus, ces viols, comme une stratégie de guerre.
Une stratégie de guerre aussi pour atteindre les hommes ?
En fait, ça atteint les hommes dans la mesure où lorsque les femmes sont violées, lorsque les enfants sont violés, elles sont violées en présence de leur père, de leur mari. Et si les femmes ont donc des atteintes physiques, les maris, ils ont des atteintes psychologiques. Et ce que nous avions observé, en fait, est que lorsque il y a ces atteintes psychologiques, il y a une atteinte très grave qui détruit même les tissus sociaux de la communauté. Et donc, lorsqu'on viole en public, on viole une femme par plusieurs hommes à la fois, et qu'on veille à ce que tout le monde voit ça, c'est pour non seulement atteindre la femme physiquement, elle est atteinte physiquement et psychologiquement, mais toute sa communauté est atteinte psychologiquement. Et donc, lorsqu'une communauté est réduite à ces points, cette communauté devient tout simplement facile, en fait, à assujettir et à anéantir également. Et donc, la population après est mise sous, elle se met carrément sous la responsabilité de leurs agresseurs.
Et vous allez nous expliquer tout au long de cette émission ce que vous faites pour prendre en charge ces femmes psychologiquement et physiquement. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, je reçois le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue obstétricien, directeur de l'hôpital Panzi de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme qui raconte justement le calvaire qu'elle a vécu dans la région du Kivu. Un reportage réalisé par Ziane Malouf il y a 6 ans dans l'est de la RDC.
Nous allions à Butembo acheter des articles. Au retour de Butembo, en cours de route, nous avions rencontré des agresseurs venant de la brousse et nous ont pris. Ils nous ont pris et nous ont amenés dans la brousse. Une fois arrivés dans la brousse, ils nous ont violés en série. Et ensuite, ils ont pris un couteau et ils l'ont enfoncé au niveau du bas-ventre et les intestins sont sortis dehors. Nous étions un groupe de 6 femmes quand on nous avait violées. Et de ce groupe, il y a déjà 4 qui sont mortes de sida. Il n'y a que moi qui suis restée, mais malheureusement, mon mari, lui, est déjà mort.
Est-ce que vous avez fait des tests à l'époque pour vérifier si vous étiez malade ?
Je suis sûre, j'ai déjà fait des examens. Surtout, je suis allée les passer au niveau de Rumangabo, où plusieurs personnes ne me connaissaient pas. Et
vous êtes éloignée pour aller faire les examens ?
Je suis allée faire cet examen loin de ma famille, loin du village, loin de la ville, pour que les gens ne se moquent pas de moi.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Denis Mukwege, ce qu'on vient d'entendre, vous l'entendez encore aujourd'hui, 6 ans après, c'est la même histoire ?
Malheureusement, c'est la même histoire, ça continue et aujourd'hui, je suis très inquiet puisque plus de 15 ans, écouter ces histoires de viol avec torture, avec destruction de l'appareil génital par les armes à feu, par les armes blanches, par le feu ou les produits chimiques, je pense que ça devrait s'arrêter. Malheureusement, ça continue, j'ai des victimes qui ont été violées encore à la fin du mois de janvier que je soigne. Et ça, c'est triste.
Alors justement, on va parler de ce que vous faites à l'hôpital de Panzi, de la prise en charge que vous proposez. Au départ, vous avez créé cet hôpital plutôt, je dirais, pour donner naissance, pour que les femmes accouchent dans de bonnes conditions. C'était ça l'idée de départ de Panzi.
En effet, lorsque nous avions créé l'hôpital de Panzi, on n'était pas conscient en fait de cette situation. J'étais gynécologue dans la région depuis plus de 14 ans et donc je n'avais jamais fait face à des situations de viol avec torture comme ça a été le cas. Et malheureusement, quand on a ouvert l'hôpital de Panzi, la première victime que nous avions soignée, c'était une dame qui était violée juste à quelques mètres de l'hôpital. Et après l'avoir violée, on a tiré au niveau de son bassin, de son appareil génital, et donc elle est venue, c'était la première victime. À cette époque-là, nous pensions que c'était un fait isolé de gens peut-être qui ont perdu la tête. Malheureusement, en fait, c'était un début d'une longue histoire et une histoire qui ne se termine pas.
Concrètement, comment vous prenez en charge ces femmes? Vous, vous opérez, vous essayez de reconstruire le vagin quand il y a eu des destructions, c'est ça? Parce que ce sont des viols avec énormément de violence.
Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a d'abord des choses qui arrivent lorsque les femmes sont violées de cette façon. Il y a certainement des atteintes physiques au niveau de l'appareil génital, au niveau de l'appareil urinaire et au niveau de l'appareil digestif, donc le rectum derrière le vagin, qui sont souvent touchés ou atteints et que nous réparons. Mais
qui sont des fistules, en fait. On en entend beaucoup parler de ces fistules à l'occasion d'accouchements compliqués, mais avec vous, on en a entendu parler à l'occasion de viols.
Exactement. Et donc, ce que je disais, lorsque les femmes arrivent, elles ont une atteinte, en plus de ce qu'elles ont sur le plan physique, elles ont une atteinte psychologique assez grave. Et donc, on ne se précipite pas à les opérer, sauf lorsque leur vie est en danger. Mais lorsque nous pouvons différer l'opération, nous les prenons d'abord en charge sur le plan psychologique. Pourquoi ? Parce que nous avions observé que lorsque vous ajoutiez un traumatisme chirurgical au traumatisme donc du viol et de la torture, souvent les femmes trouvaient que c'était trop et que parfois elles faisaient la grève de la faim, refusaient de manger, refusaient le médicament et l'issue peut être dramatique. Donc nous avons une équipe de psychologues, une équipe d'assistantes sociales qui prennent et qui conditionnent d'abord les femmes sur le plan psychologique avant tout acte médical agressif, donc acte chirurgical.
Et donc dans cet hôpital de Panzi, il y a combien de psychologues pour accueillir ces femmes?
Pour le moment, nous avons 3 psychologues et une vingtaine d'assistantes sociales.
Et alors ces psychologues commencent par écouter ces personnes, parce qu'au début finalement c'est vous qui faisiez ce travail-là, d'écouter les patientes, et puis je crois qu'à un moment vous avez trouvé que c'était trop d'horreur.
Absolument. Au début, en fait, les femmes venaient puisque le motif de consultation, ce n'est jamais des troubles psychologiques, puisque elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont des troubles psychologiques. Ce sont les autres qui le voient. Et donc, elles venaient puisque, bon, elles avaient des problèmes que nous allons parler après, donc des fistules ou elles avaient des mutilations génitales. Et donc, je les écoutais. Elles avaient vraiment envie de pouvoir me parler de ce qui est arrivé. Et elles me faisaient confiance. Mais en fait, au fil des temps, je m'étais rendu compte que c'était des histoires horribles et que moi-même, ça commençait à m'affecter. Et donc, je commençais à être lié aux patientes par rapport même à ce que je vais faire. Donc,
ça vous empêchait presque d'opérer correctement,
voilà. Donc,
c'est ça.
Donc, on arrive à une situation où on devient juge et partie et donc ça ne marche pas. Il faut un tout petit peu se détacher pour pouvoir faire son travail de chirurgien correctement. Et ainsi, quand j'ai constaté que je commençais à être atteint, j'ai fait appel aux psychologues et donc on a constitué une équipe de psychologues pour pouvoir vraiment faire ce travail de psychologue et le faire correctement.
Alors ces psychologues accueillent ces femmes qui parlent relativement facilement, racontent ce qui s'est passé. Comment ça se passe, cette prise en charge psychologique ?
En effet, au début, dans les années 2000... 1999, c'était très très difficile d'arracher la parole à ces femmes qui non seulement elles étaient stigmatisées dans leur communauté, mais qui voulaient avoir un traitement médical ou médico-chirurgical sans que le personnel puisse en savoir trop. Mais malheureusement, en fait, les lésions qu'elles portaient sur l'appareil génital, elles ne pouvaient pas expliquer. On a eu des explications, c'est une corne d'une une vache qui m'a pénétré, c'est j'ai été brûlé, je suis tombé. Mais de toute façon, toutes ces explications-là n'étaient pas. Et je crois que progressivement, je crois que le silence que les femmes avaient en 1999, en 2000, lorsqu'on les interrogeait, c'était plus difficile à obtenir, en fait, qu'elles nous disent réellement qu'est-ce qui s'est passé. Même si on pouvait constater que psychologiquement, elles n'allaient pas bien et que si c'était un accident seulement, elles ne devraient pas avoir un tel comportement. Mais il y a une évolution. Les 15 ans après, nos équipes ont beaucoup travaillé pour amener, en fait, les femmes à rompre les silences. Parce que je crois que dans le drame de viol, c'est aussi le silence où la victime veut garder ça pour elle, elle veut gérer ça elle-même, elle ne veut pas partager avec les gens qui peuvent l'aider. Et donc, nous avions vraiment beaucoup travaillé pour que les victimes puissent rompre les silences. Et aujourd'hui, je crois, les choses sont différentes, quoi qu'il y ait encore une proportion de femmes qui ne sont pas encore prêtes à dire toute la vérité, comment ça s'est passé, mais c'est mieux aujourd'hui.
Et tout simplement parce que le premier sentiment, on l'entend souvent dire, en cas de viol, c'est la honte.
C'est la honte. C'est ce qui se passe. En réalité, c'est la honte. Lorsque le viol s'est commis, par exemple, au champ, ou ça s'est commis dans la forêt, et que la femme était seule, on a observé que la prise en charge est tardive, puisque la femme, elle essaye de cacher. Elle vient seulement nous voir lorsqu'elle a des complications, donc d'ordre, par exemple, douleur abdominale, lorsqu'elle a des complications et qu'elle voit qu'elle a des pertes anormales, lorsqu'elle a des complications même de fertilité. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, bon, ben, j'avais caché, mais finalement, je continue à traîner les conséquences. Il faut que j'en parle. Et donc, malheureusement, ici, en ce qui est de l'Est de la République démocratique du Congo, 60% des viols se commettent à la maison. Donc, les femmes sont violées chez elles. Et donc, ça se passe en présence des enfants, du mari. Et donc, c'est difficile de cacher. La communauté est souvent témoin de ce qui s'est passé.
Dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, on a bien entendu effectivement ce sentiment de honte, cette envie de se cacher, d'aller entre autres faire les tests de dépistage du sida le plus loin possible. Est-ce que maintenant qu'on entend de plus en plus parler de ces viols grâce au fait que vous en parliez, est-ce que du coup il y a moins ce sentiment d'aller se cacher quand on vient vous consulter entre autres à Panzi ?
Ce sentiment reste toujours présent. Vous savez, lorsqu'on touche à la dignité de quelqu'un, il n'est pas facile de dire bon, mais ça c'est déjà arrivé aux autres et ça m'arrive aussi, donc je ne dois pas avoir honte. D'autant plus que ceux qui commettent ces viols, ils les commettent pour humilier, pour enlever toute la dignité aux femmes, et ils y arrivent. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il faut une sensibilisation, il faut une approche qui permet de mettre la femme en confiance et qu'elle sente réellement que vous êtes là pour elle, vous voulez l'assister, vous voulez l'aider, et que loin de vous, l'idée, par exemple, de pouvoir l'humilier davantage. Et donc, pour nous, à Panzi, la confidentialité est la règle. Il faut absolument que la confidentialité soit respectée pour que les femmes puissent continuer à se sentir en confiance. Le témoignage de cette femme qui dit qu'elle a été se faire tester très loin, là où personne ne la connaît, montre très bien tous les problèmes qui est lié en fait à la violence sexuelle, surtout dans nos pays où il y a très peu de centres qui peuvent prendre en charge. Et si la femme doit chercher un centre où elle va être anonyme, vous comprenez que parfois ça ne se fera jamais. Elle a été courageuse, elle a été cherchée, elle était peut-être informée, mais celles qui ne sont pas informées, elles essayent de garder leur mal avec elles en se disant on verra ce qui va arriver, mais attendre voir ce qui va arriver, c'est toujours les drames. Et là, je tiens à préciser, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des kits PEP, ce sont des post-exposure prophylaxis,
on va y revenir si vous voulez bien sur ces tests. C'est très important ce que vous dites. C'est quelque chose à faire juste après justement le viol. On y revient dans 3 minutes juste après les informations et vous nous expliquerez pourquoi c'est si important. On se retrouve dans 3 minutes.